Bienvenue à l'espace Mendès France pour l'ouverture du cycle 2023-2024 des inventions esthétiques de la photographie. Donc, il y a un cycle de conférences qui est organisé avec Anne-Cécile Guilbard, qui est maître de conférences en littérature et esthétique à l'Université de Poitiers. Et donc, cette année, on s'est joint sur l'initiative, enfin en tout cas sur le festival, la biennale du festival de photographie de Saint-Benoît, et on remercie l'association Arc'Image. Je donnerai la parole à Jean Duré, que nous sommes allés rencontrer, qui nous a dit le thème de cette année, c'est l'humour. Alors l'humour en photographie, c'était pas forcément un sujet sur lequel nous avions déjà travaillé avec Anne-Cécile, donc voilà, en discutant avec lui, il nous dit qu'il y aura une rétrospective des photographies de Gilbert Garcin. Et donc on est parti dans cette direction-là, même si vous le direz, il y aura d'autres photographes qui seront exposés du 13 au 15, c'est ça, du 13 au 15 octobre à la Une, donc la salle de Saint-Benoît. Et donc au départ, nous devions recevoir donc Magali Geoffrey, qui a fait un livre aux éditions Filigrane sur le photo poche sur Gilbert Garcin, qui finalement n'a pas pu venir, et on a l'immense joie d'avoir Dominique Monconduit, qui est professeur en littérature à l'Université de Poitiers, et qui a relevé le défi, non sans humour, je pense, il nous le dira, puisqu'il est connaisseur de photographie. Alors je le signale, si vous ne le savez pas, donc Dominique Monconduit s'occupe aussi d'une maison d'édition qui s'appelle, enfin une petite structure d'édition qui s'appelle les Éditions Atlantiques, dans lesquelles nous avons plusieurs parutions sur la photographie. Vous pourrez les voir à l'étage. Et notamment, il y a eu un livre sur 9 photographes en Nouvelle-Aquitaine, Les pieds des photographes, dans lequel il a écrit un texte, donc que vous pourrez consulter si vous le souhaitez. Ce sont des photographes donc comme Eva Avril, Jean-Luc Chapin, Marc Deneyer, qui a été exposé lors du festival. Gabriel Duplantier, Thierry Gérard, je crois aussi que Thierry Gérard a dû être exposé. Jean-Luc Chapin aussi, Christelle Léris, Laurent Millet, Claude Nori et Claude Poquet. Voilà, vous pourrez découvrir ça. En tout cas, on est ravis d'accueillir cet événement dans le cadre des 30 ans du festival, parce que donc c'est un festival qui a été créé par 2 étudiants, dont donc Philippe Quintard et Nicolas Aubert, qui travaillent à l'Espace Mendès France, donc il y a aussi un collègue, et en fait le point de départ, c'est Willy Ronis qui vient à Saint-Benoît, ce qui est quand même assez incroyable comme histoire, et donc c'est un bel anniversaire que nous vous souhaitons, et également avec sous le regard de Gilbert Garcin, qui est un photographe sur le fil. C'est bien que tu aies mis cette photo, Dominique, puisqu'il est entre humour, mélancolie, nostalgie. Je pense qu'on aura et évidemment énormément de poésie. Et tu veux dire un mot, Anne-Cécile? Je le laisse la parole à Jean Duré pour nous présenter un peu le festival.
Oui, donc le festival, je ne reviens pas sur les origines. Donc 30 ans, ça se fête. Bon, c'est une biennale, simplement pour des questions d'organisation, puisque c'est quand même très très lourd comme machine. Ça va se tenir à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Les invités cette année, donc c'est Michel Lagarde, qui fait un travail très très théâtral, beaucoup de choses. Muriel Bordier, qui aussi s'interroge en faisant du travail de conception et plutôt de la création numérique aussi. Et puis Alain Gillet, qui est passionné de chiens et qui, à travers ses photographies, crée des races improbables. Et donc, pour interpeller aussi sur les aspects de génétique qui se produisent maintenant sur les chiens pour avoir des animaux parfaits au sens commercial du terme. Bon, je fais très court, il faudra le découvrir. Et donc, en partant de cette idée-là, c'est d'abord Michel Lagarde que nous avions repéré au cours d'une exposition. Après, nous avons recherché les autres. Puis on s'est dit, tout ça, c'est dans la lignée d'un des précurseurs, qui est dans les années 80, qui était Gilbert Garcin. Et on a contacté la Caméra Obscura qui le représente. On a eu les accords du fils de Gilbert Garcin de pouvoir monter cet hommage qu'on veut rendre à tout son travail. et qui est source d'inspiration pour tous ces photographes. Et puis, au dernier moment, alors là, il n'est pas sur les programmes, on nous a présenté un autre photographe qui est sur Poitiers, qui s'appelle Kuchmok, et qui aborde la photographie en utilisant maintenant l'outil d'intelligence artificielle. Et donc, qui a produit des images comme ça, et qui a une grosse réflexion par rapport à ça. Et donc ça, entre Alain Gillet, qui l'aborde aussi, et puis lui, ça va être le sujet de la conférence de dimanche matin. Donc, photographie et intelligence artificielle, on va faire une table ronde à 10h30 dimanche matin. Donc, un programme très riche. En fait, en gros, si sur le plan technique, on aborde la photographie, ben, de ce style de photographie, dont comme Gilbert Garcin, un peu avec du bricolage, parce que c'est de la découpe, c'est des choses comme ça, jusqu'à dernières technologies là, qui sont sujets de polémiques qui sont en train de naître. Voilà, donc venez nous voir. C'est ouvert de 10h à 19h. Je ne vais pas en dire plus. Vous découvrirez les photographies de Gilbert Garcin. On en a 25 quand on est allé chercher, qui sont arrivées. Donc, ça va être un beau festival à voir. Après, oui. Dans la une. Ah ben dans le hall, ce sera fléché, hein. Il y a pas de, non, il y a pas de, c'est dans la grande salle, on rentre, il y a pas de souci, on aura mis le fléchage à 10h30, donc merci de venir et d'assister à tout ça, puis ça nous encourage parce que nous ne sommes qu'une équipe de bénévoles et je peux vous garantir qu'il y a du travail consacré depuis plus d'un an et demi, deux ans sur ce sujet-là. Voilà, je vous remercie. Pourquoi l'humour ? Alors, juste terminer. Quand on a parlé de ce festival-là, on était en pleine sortie du Covid. On avait ras-le-bol, on avait tout ça. On s'est dit, on va mettre un peu de légèreté. Malheureusement, l'actualité nous montre que ce n'est pas gagné. Donc, bonne soirée et puis à bientôt.
Merci beaucoup. Anne-Cécile ?
Oui, merci Héloïse. Juste un mot pour vous saluer à mon tour, et notamment les étudiants du Master Littérature et Culture de l'Image qui sont en partenariat avec ce cycle de conférences depuis 11 ans. On a aussi nos anniversaires. Vous remerciez tous et toutes d'être là et aussi, et bien sûr, et peut-être surtout ce soir, Dominique Monconduit, jeune professeur émérite qui... tout jeune professeur émérite, mais tout jeune, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté de tenir cette conférence sur Gilbert Garcin. On parlait de photographie en intelligence artificielle. La création photographique est d'une richesse folle dès lors que les artistes sont à la fois pleins d'imagination et aussi de savoir-faire technique. Celui-ci, Gilbert Garcin, a une qualité de création dont Dominique va nous parler, que certaines connaissent peut-être un peu déjà. D'autres, je le sais, vont découvrir. Donc je vous souhaite à tous et toutes une très belle conférence.
Merci beaucoup à tous. Merci au festival, à M. Duret de sa confiance. Merci Héloïse de m'avoir tiré la manche. Alors, j'ai eu un petit souci dès le départ, je veux quand même le dire. J'ai dit à Héloïse, mais moi, ça ne me fait pas du tout rire, c'est ça le problème. Bon, mais je vais essayer de rire un peu quand même. Ou vous dire pourquoi ça ne me fait pas totalement rire, ou sérieusement essayer de caractériser les formes d'humour, il y en a plusieurs, chez Gilbert Garcin. Alors, tout peut arriver, j'ai repris le titre que vous aviez annoncé, et c'est le titre de cette photographie. Elle est vraiment intéressante, c'est une bonne manière d'introduire le propos, parce qu'elle est d'abord très géométrique, à certains égards très abstraite. Attention, Gilbert Garcin, c'est un grand bricoleur, on l'a dit, ça c'est sûr, je vais essayer de préciser comment, mais comme tous les vrais bricoleurs, il y passe beaucoup de temps, donc c'est très minutieux, il y a des petits défauts, je pense que parfois il les laissait volontairement, mais en tout état de cause, il n'y a rien qui soit laissé strictement au hasard. Par exemple, vous notez bien que les lignes ne sont pas parallèles, elles sont un peu diagonales, etc. Bon, et puis, il y a quelque chose d'abstrait et de géométrique. Dans cette image, je vous prie de noter, il y a un fond noir extrêmement, j'allais dire violent, c'est peut-être pas le mot, encore que. qui permet évidemment que les lignes, appelons-les comme ça, ressortent. Et puis, il y a cette ambiguïté. Ce n'est pas une image des plus simples chez lui, mais c'est une qui est très intéressante, me semble-t-il. Tout peut arriver. Évidemment, on peut le prendre de manière très ludique, et puis on peut quand même se dire que c'est peut-être quelqu'un qui va jeter du haut de la poutre. Mais il a mis une chaise en bas, et peut-être il va tomber sur la chaise. Il ne lui arrivera rien, peut-être. Bon, ça, c'est l'humour de Garcin, totalement, me semble-t-il. Alors, il convoque ici quelque chose comme un échafaud, pour ne pas dire un échafaudage. Il y a quand même une corde, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire qu'il convoque une idée qu'on peut avoir en tête d'une pendaison, par exemple. Et puis, il est assis négligemment, apparemment, sur cette poutre. Et puis, il y a cette chaise qui peut-être pourrait l'accueillir, peut-être pas. Bon, c'est très significatif de Gilbert Garcin. Alors, je vais essayer de vous le présenter un petit peu. J'aime beaucoup cette image aussi. Alors, on est vraiment dans l'univers qui s'est créé. Je vais le présenter en détail, mais je montre quelques images pour commencer. On a toujours ces formes géométriques qui renvoient, bien entendu, à des bords de mer, éventuellement. Et puis, cet arrière-plan ici, très nuageux, qui est très simplifié. Bon, vous voyez bien que ça sent le montage, et c'est un montage, et vous notez tout de suite qu'il y a deux personnages. Ça veut dire que ce n'est pas les toutes premières photos de Gilbert Garcin, je vais l'expliquer dans 30 secondes. Voilà la première photo qu'il s'est autorisé à considérer comme une œuvre, disons ça comme ça. Alors j'ouvre une parenthèse, j'aime beaucoup les parenthèses. Première parenthèse. Sérieusement, il y a un très beau site, je trouve, vous devez le connaître, Monsieur Duret. Gilbert Garcin a longtemps nourri ou trouvé quelqu'un qui l'aidait à nourrir un site, peut-être son fils ou peu importe. Et je vous invite à y passer du temps, ce que j'ai fait, parce qu'il y a beaucoup d'informations et il a classé toutes ses œuvres, 330 exactement, 330 acceptées par lui comme dignes d'être montrées. Puisqu'il y a une numérotation qui montre qu'il y en a eu beaucoup d'autres, en réalité, mais qu'il a écarté. Et celle-là, c'est la toute première qu'il s'est autorisé à montrer, donc qui lui paraissait correspondre à quelque chose d'assez proche de ce qu'il avait en tête. C'est le premier personnage qu'il s'est inventé, qui a été reconnu par tous et par lui-même comme une sorte d'avatar de M. Hulot. C'est intéressant de partir de là. Enfin, c'est lui, puisqu'encore une fois, il a dit « c'est ma première photo », n'est-ce pas ? Officielle, si je puis dire, mais c'est très symbolique. L'un des points de départ du travail de Garcin, c'est se mettre dans la peau, disons ça comme ça, ou dans la silhouette de M. Hulot, c'est-à-dire convoquer quelque chose qui est des années 50-60. C'est intéressant de le situer, enfin, je suis un petit peu historien où j'essaye de l'être, et donc c'est toujours important de savoir d'où on vient. Lui, clairement, ce qu'il revendique, jeune photographe, à ce moment-là, 93, eh bien, il se revendique dans cette lignée des pinces sans rire qui donnent à réfléchir. Et il part de la génération d'avant, puisque c'est un jeune photographe, mais qui n'est pas tout jeune. C'est un tout jeune retraité, à ce moment-là, qui va produire une série d'images. Je vais le présenter précisément. J'en montre encore une ou deux, parce qu'il faut montrer des images. L'ambition raisonnable. Alors, je vous attire votre attention sur la similitude du fond. Par exemple, avec la toute première image, tout peut arriver. Il joue comme ça des effets. C'est des trucs, c'est pas péjoratif, bien sûr. Et puis, j'avais envie de commencer vraiment en m'arrêtant sur cette image. Au fond, elle convoque indirectement, il me semble, quelque chose qui, lors d'une référence, on va parler de théâtre, on va parler de cinéma, on va parler de photo quand même, oui. Et bien, on va peut-être parler de mime aussi. Je pense que cette photo, c'est pour ça que je la mets là, à ce moment-là, c'est aussi Mime Marceau, c'est aussi toute une tradition, c'est toute une tradition des débuts du cinéma, n'oubliez pas. Bon, ici, l'ambition raisonnable, alors là, ça y est, on est dans l'humour. On est dans l'humour de Garcin, je vais tirer ce fil-là. Bon, l'ambition raisonnable, vous voyez bien, c'est pas décrocher la lune, c'est un petit bout de lune qui peut-être est pendouille, c'est la queue du Mickey au manège ou je sais pas quoi, bon, bref. C'est éventuellement possible en montant sur un petit escabeau, etc. Alors, tout ça convoque plein de choses. Hein. Une espèce de lune hyper symbolisée. Peut-être l'arrière-plan du mime Marceau et d'autres mimes, de toute la tradition du mime au 19e et encore au 20e siècle, qui est fondatrice pour tout le cinéma muet, il ne faut pas l'oublier. Voilà, et je trouve ça intéressant de m'arrêter sur cette image. Alors, qui est donc Gilbert Garcin, vous avez vu les dates, Il est né en 1929. C'est un autodidacte. Pardon, c'est comme ça qu'il se présentait. En fait, c'est un enfant d'ateliers à Arles. C'est très bien, les ateliers d'écriture, les ateliers de photographie, etc. Voilà, il est sorti d'un atelier de photographie à Arles, un atelier qui l'a fasciné précisément sur le photomontage. C'est donc un jeune photographe en 1993, mais c'est en même temps un jeune retraité. C'est donc quelqu'un qui va créer une œuvre, on peut le dire, sur une bonne vingtaine d'années, pas davantage. C'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui photographie tardivement, sans être passé par aucune école, évidemment, sans se revendiquer clairement de telle ou telle référence photographique. Et c'est quelqu'un qui va mettre au point des rituels. D'abord, des rituels de bricolage, effectivement, des rituels très intimes, très familiaux. C'est important parce que dans l'histoire de la photographie, il y a un certain nombre de photographes qui passent par des rituels. Je pense à Denis Roche, je pense à Mitchard, un photographe américain qui me fascine beaucoup, et puis il y en a plein d'autres. Le rituel chez lui, enfin, c'est un rituel familial, c'est sa femme qui instaure ce rituel, il photographie le mercredi. Alors, le photographie n'est pas le bon terme exactement. Il élabore ses maquettes qu'il photographie par la suite, le mercredi, le samedi et le dimanche. C'est ce que j'appelle le rituel, c'est qu'il y a 3 jours de bricolage avéré et les 4 autres jours sont des jours de maturation, de réflexion, de bouillonnement, d'idées. C'est important. Là. Il y a le côté rituel parce qu'il y a encore une fois un certain nombre de photographes qui se sont pliés comme ça, photographier que le dimanche ou ne tirer que le dimanche, Mitiard, ou ne photographier qu'en vacances, Denis Roche, etc. Bon. Chez Garcin, c'est intéressant de le rappeler parce que ça veut dire que le travail de maturation de la future image est tout aussi important en durée que la réalisation de l'image. D'une certaine manière, on est là dans une vieille tradition qui veut, c'est une chose mentale. C'est d'abord une chose mentale, c'est-à-dire quelque chose qu'on conceptualise, quelque chose qu'on imagine et ensuite on met les mains dans le cambouis, dans le noir, etc. etc. En réalité, M. Durel a évoqué, ce qu'il réalise, ce sont des maquettes. Il commence, alors tout commence sur son balcon à Marseille, balcon de son appartement, il se photographie, dans d'autres endroits après, mais il y a beaucoup de questions de son balcon. Puis après, c'est un peu envahissant, donc son épouse l'incite à prendre un atelier à La Ciotat, là où il est né, et où son grand-père, si je me souviens bien, faisait vivre un cinéma. La Ciotat, c'est pas rien, c'est les frères Lumière, c'est tout ça. Et c'est pas nous seulement qu'il convoquons ça, c'est lui aussi qui convoquait cette mémoire-là. Bon. Et donc, il commence sur son balcon, il se photographie, il réalise donc des photographies de lui-même, je ne parle pas d'autoportraits, délibérément. Et à partir de là, il va les réduire et faire des espèces d'effigies de 10 cm de hauteur, des effigies de sa propre personne, des silhouettes, si vous voulez. Le pseudo Monsieur Hulot, c'est une silhouette. Et ces effigies, il va les mettre en scène, j'emploie l'expression à dessin, bien sûr, dans des espèces de montages qui découlent du principe qu'il a élaboré d'illustrer, par exemple, une idée reçue, de jouer sur une image, etc. On va essayer de préciser cela après. Donc, chaque maquette est une sorte de bricolage avec impliquant toujours sa propre silhouette. Quelques années plus tard, il va impliquer son épouse. Et il y aura donc éventuellement 2 silhouettes, la sienne et celle de sa femme. Bon, et puis, il va ajouter des éléments, des petits cailloux, un peu de sable, des petites figurines très peu, des éléments découpés, etc. En réalité, la première création la création véritable de Gilbert Garcin, c'est d'abord de composer la maquette. Et ensuite seulement, bien sûr, il produit la photographie à telle enseigne que Magali Geoffrey a une belle formule, puisque j'ai lu ses introductions, je la cite, « Chez lui, c'est l'idée qui fait œuvre et la photo constat. » Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est intéressant quand même de partir de là. Je répète, « Chez lui, c'est l'idée qui fait œuvre, c'est cette maturation, cette espèce d'éclosion de l'idée d'image et la photo constat. » Le mot constat est ambigu, pour le moins. Parce qu'il me semble quand même, la question que je me suis posée, est-ce qu'il s'agit véritablement, en réalité, de photographie ? En réalité, oui. Parce que quand même, l'idée de constat supposerait qu'on enregistrerait, si je puis dire, simplement la maquette. En réalité, non, parce que la maquette, elle suppose un éclairage, elle suppose une composition, bien sûr, elle suppose aussi un point de vue. Bon, et donc, il y a un travail de nature photographique, d'autant plus que Garcin fait le choix du noir et blanc. Et un choix récurrent, un choix délibéré, et un choix qui va mettre en œuvre, notamment en jouant sur des valeurs très, très profondes de noir, par exemple. Donc, oui, il y a quelque chose de strictement photographique dans son travail, même si la phase première d'élaboration de la maquette est décisive. C'est une œuvre photographique, et la photographie n'est pas juste l'enregistrement, si je puis dire, d'une maquette préétablie. Ça fait advenir définitivement, ultimement, l'idée qu'il a construite, il a élaborée dans son esprit, autour de personnages, de citations, etc. Donc, il se crée progressivement trois personnages, ou plutôt deux plus son épouse. D'abord, ce personnage que lui-même réfère à M. Hulot, on l'a montré. Et ensuite, quelques années plus tard, le personnage évolue, il ne porte plus la même gabardine. On va le retrouver plus loin, mais je ne vais pas le montrer là. C'est Mr. G, ou Monsieur G. C'est M.G, donc Monsieur G, c'est le titre d'un de ses ouvrages, mais là, il l'écrit bien Mr. G. Bon, alors, je pense que c'est un jeu de mots aussi, etc. On va en voir plusieurs, enfin, une référence anglo-saxonne, peut-être au cinéma, etc. Donc, il crée ce Mr. G, et ensuite, Mr. G et Mrs., puisqu'on joue Madame. Donc, je précise bien, c'est facile, mais il faut y assister. Il s'agit quasiment aucunement d'autoportrait, j'en montrerai un tout à l'heure, mais c'est un double autoportrait qui détruit l'idée d'autoportrait. Garcin ne cesse de dire que ce qui l'intéresse, ce n'est pas du tout sa tête, ce n'est pas son portrait, il se construit un personnage. C'est une œuvre photographique avec personnage. La personne que l'on voit, oui, c'est Gilbert Garcin, mais pour lui, ce n'est pas du tout l'enjeu. Chez d'autres photographes, ça peut l'être, comme vous le savez. Et donc, ce ne sont pas des autoportraits. C'est une méditation, alors ça, construite à partir de séries d'images parfois ou de suites d'images. Et alors on peut dire que c'est une sorte de portrait intellectuel, moral, éthique, voire politique, soit, mais ça ne passe pas par la représentation du corps, par exemple, puisque les corps ici sont réduits délibérément à des silhouettes. Ce qui permet à certains égards que ça soit à la fois une image de Gilbert Garcin et une image de n'importe qui, tout le monde, personne. Ça veut dire que la démarche Gilbert Garcin, c'est au fond d'emblée une main tendue à qui va regarder, regardeur, puisque le caractère quasi anonyme de la silhouette fait que ce n'est pas l'autoportrait, ce n'est pas le portrait de Monsieur Truc ou Madame Machin, c'est une silhouette humaine, ce qui fait que dans la relation au regardeur, il y a d'emblée ce désir, je crois, que toute personne qui regarde l'image dise que c'est moi ou c'est lui, bref, potentiellement. Il y a parfois, par exemple, ce type d'image où la silhouette est délibérément tenue à distance, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la représentation, on ne sait pas qui c'est. C'est juste une silhouette humaine, masculine en l'occurrence. Et donc le costume qu'il choisit, puisqu'il s'agit d'un personnage, le costume, il est... Lui-même, on lui fait dire, quand on l'interroge, oui, c'est Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde pour sa femme, c'est n'importe qui. Ça, c'est un grand photographe du n'importe qui. C'est intéressant. C'est pas si... Puisque vous savez bien que la photographie a tendance, au contraire, à identifier, à pointer, qu'on mette le nom ou pas. Bon, la photographie souvent donne corps. Elle constitue une représentation d'une personne, etc. Il y a là, non, c'est délibérément le grand principe, la représentation non... Alors, d'une non-personne au sens où c'est tout le monde. Voilà. Et j'insiste tout de suite parce que je vais oublier. Gilbert Garcin a donc créé ses propres effigies avec plusieurs reprises, en changeant de costume, comme je l'ai dit. Et en vieillissant, il va décider d'utiliser toujours les mêmes effigies. Parce qu'au fond, il aurait pu se dire, tous les ans, par exemple, je me refotographie, on va me voir vieillir. En réalité, ça ne l'intéresse pas du tout. D'abord, encore une fois, on ne le verrait pas vieillir parce que c'est une silhouette tenue à distance. Parfois, on voit son visage, mais bon, peu importe. Et donc, il faut savoir que Gilbert Garcin, pendant plus de 20 ans, va utiliser toujours les mêmes images. À 80 années passées, il va utiliser son effigie à 65 ans. Ça veut dire que le travail photographique pour lui, c'est aussi une manière peut-être de mettre à distance son propre vieillissement, j'en sais rien, mais en tout état de cause, de refuser l'idée d'enregistrer, si je puis dire, ou de faire voir par la photographie le temps qui passe sans son propre corps. Et en même temps, c'est une manière d'assurer peut-être davantage le fait que tout regardeur peut se sentir touché par ce qui s'y joue. Il y a un rapport au temps qui, je crois, est un des vecteurs importants, si j'ose dire, du travail photographique de Garcin. On va voir plusieurs images qui s'affichent comme des interrogations sur le passage du temps, sur la mort, etc. Magali Geoffrey et d'autres disent qu'on peut percevoir ce travail comme un travail métaphysique. Pourquoi pas, si on n'oublie pas de rigoler un peu. Oui, c'est possible. Je suis de ceux qui, grand lecteur de Pascal, et Pascal parfois me fait rire, donc ça me va. Bon, allez, je vous montre quelques images pour ne pas vous saouler trop. Alors, j'ai choisi des images que j'aime beaucoup. Il y en a plein d'autres, bien sûr, mais soyons subjectifs, assumons-le. La convoitise. Bon, voilà, c'est toujours le même genre de principe. C'est-à-dire, clairement, la démarche de Gilbert Garcin sur une image comme celle-ci, c'est au fond de réfléchir à la manière, je vais dire d'illustrer, mais je vais retirer le mot tout le temps, tout de suite, il n'est pas bon, la manière de mettre en œuvre par une image un concept, une idée, une réflexion morale, une réflexion sur le temps, etc. Bon, et de trouver moyen de la rendre visible, d'en donner une représentation symbolique et souvent allégorique. Alors, j'ai trouvé une expression heureuse sous la plume d'un autre critique. Il parle d'aphorisme, voilà, un aphorisme visuel. C'est une belle formule pour désigner le travail de Gilbert Garcin. Aphorisme visuel, ici, la convoitise. Alors, il y a toujours le petit tabouret et puis ses cordes tendues. Alors, c'est toujours l'effigie, hein, pas d'erreur. Et puis, voilà. Alors, il y a toutes celles qu'on peut saisir, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas celles-là qui intéressent. C'est celles qu'on ne peut pas attraper ou qu'on a plus de difficultés à attraper. Je continue. J'adore celle-là, la soif d'absolu. Alors, ça, c'est une vraie photographie. Enfin, je me tourne vers mon ami Anne-Cécile. Là, on sait qu'on n'est pas seul, que le travail ne s'arrête pas à la maquette. Sans l'éclairage, il n'y a rien. Ça n'existe pas. C'est l'éclairage qui fait que la maquette préparée, elle advient comme photographie. Et elle n'a de sens. Enfin, elle n'a de performance au sens anglais. Elle ne produit en effet que parce qu'il y a la lumière, une lumière très particulière. Et c'est l'éclairage, c'est le noir très dense. C'est le choix aussi de la composition, hein, calé sur la gauche. Voilà, là, on est dans la photographie. Donc, j'ai répondu moi-même à ma propre question, préparant mon propos. Là, oui, on sait qu'on est dans la photo. Bon, alors, d'autres photographes, deuxième parenthèse, d'autres photographes au tirage arrivent à ce type d'effet, c'est-à-dire un noir très profond. Je pense à Eugene Smith, si vous voulez, photographe américain de l'après-deuxième guerre mondiale essentiellement, enfin, des années 30 et de l'après-deuxième guerre mondiale, qui était un grand spécialiste, de demander des tirages très particuliers qui masquaient l'essentiel, un noir très profond, et il y avait une tête qui surgissait. On en a déjà parlé de cette image extraordinaire. Alors, je suis en train de vous dire, Gilbert Garcin, à mon avis, il connaît bien la photographie, malgré tout. Il se présente comme autodidacte, mais on va le voir, il ne vient pas de n'importe où. Ici, la soif d'absolu, évidemment, là, on peut sourire parce qu'il s'agit de quelqu'un qui, avec un balai, essaye, tout le monde comprend, d'évacuer la dernière tache dans le noir, la dernière tache de blanc. C'est aussi l'image symbolique, un jeu de noir et blanc. La soif d'absolu, c'est d'enlever le blanc qui reste. Et vous voyez bien que le personnage est prêt à partir d'où vient la lumière, vers la gauche. Qu'est-ce qui restera? Du noir. Bon, un noir absolu. Bon, pensez à Soulages, etc. Il sait ce qu'il fait, à mon avis. Il sait qu'il y a aussi un travail sur la lumière chez les peintres, etc. Il ne se prétend pas l'égal de Soulages, ce n'est pas ça. Mais il y a beaucoup d'images où, en fait, en arrière-plan, il y a aussi un clin d'œil à ce que d'autres travaillent, d'autres plasticiens, artistes, peintres, photographes travaillent. Je ne vais pas la montrer, je n'ai pas le temps, mais il y a une photographie qui s'appelle Le chien d'Eliot Erwitt, qui est très passionnante, où il joue sur la représentation, etc., etc. Alors, on a souvent ce type d'image chez lui, enfin, il y en a un certain nombre. Ça m'intéresse de la montrer parce que, vous voyez, on est le dilemme en 2000, c'est une petite dizaine d'années après qu'il a commencé son œuvre, et on est à nouveau dans un pseudo-travail à la Hulot, mais vous voyez bien que ce n'est plus le même personnage. C'est Mister et Mrs. G. Ça veut dire que la référence n'est plus à Hulot, même si on joue un peu comme ça sur un monde moderne dont on montre les limites et le caractère éventuellement effrayant. On est plus dans quelque chose de kafkaïen ici, me semble-t-il, de strictement kafkaïen que de l'ordre de Jacques Tati. Bon. Mais c'est intéressant qu'il y ait ce déplacement entre les deux images à moins de 10 ans d'intervalle. Alors je vous rappelle, troisième parenthèse, en France, on connaît, on n'a pas bien compris Kafka, toujours pas. Mais j'ai des amis autrichiens et pragois, quand vous leur parlez de Kafka, il faut attendre qu'ils aient fini de rire avant de finir la phrase. Pour un pragois, Kafka, c'est le sommet d'un certain rire tchèque. En France, on nous a appris l'adjectif kafkaïen, enfin, c'est imposé l'adjectif kafkaïen, donc Kafka prend la tête tout de suite. Mais ça veut dire qu'on n'a toujours rien compris à Kafka en France, enfin, pas beaucoup. Donc ça, c'est très kafkaïen, au sens aussi Kafka, c'est-à-dire c'est drôle. C'est aussi drôle. C'est les deux à la fois, si je puis dire. Et puis, il y a cette image célèbre, je ne peux pas ne pas la montrer, donc le funambule avec le jeu de l'ombre, n'est-ce pas ? C'est intéressant parce que ce genre de silhouette, on en trouve aussi chez des photographes, on va dire archaïques, mais ce n'est pas péjoratif, des premières décennies de la photographie. Et même chez un photographe tchèque, j'y pense, Dritkol, qui joue sur, dans les années 20, qui joue sur ses ombres. Lui aussi, il travaillait aussi parfois sur la silhouette. Et évidemment, là, cette photo est intéressante aussi pour mon propos parce qu'on est à la fois dans quelque chose d'extrêmement simple. Il y a une austérité, il y a une simplicité. C'est pourquoi l'idée d'aphorisme est intéressante. Elle est métaphorique, mais l'aphorisme, vous savez, c'est très court. C'est très court et c'est généralisant. Ça tient... c'est supposé tenir un propos universel, valable pour tous. Bon, ici, c'est une métaphore, parce que ça ne fonctionne pas comme tel, ce n'est pas de l'ordre du discours. Néanmoins, il y a une simplicité, une forme d'austérité, avec convocation d'éléments qui sont à la fois symboliques et géométriques. Ça va me ramener au photomontage. Et cette silhouette... Alors, c'est aussi affirmé qu'on est un funambule, ça vient aussi des arts de la piste. Ça ne le gêne pas, je pense, Garcin. Je pense que le mime n'est pas loin et que les arts de la piste ne le sont pas davantage. Alors, là, je vous montre très vite, avant de reprendre un tout petit peu, il y a pas mal d'images à partir des années 2000 sur la question du couple. Enfin, au moment où il a embarqué, si je puis dire, son épouse dans ce travail-là, eh bien, il métaphorise, il allégorise, oui, la relation du couple à travers un certain nombre d'images comme celle-ci, où là, il s'agit bien de la mécanique des couples, c'est aussi un jeu sur les mots, je vais y revenir. Vous voyez bien que ça joue sur l'espace tel qu'il est mis en scène, à gauche, à droite. La corde, toujours la fameuse corde. Il y a beaucoup de cordes chez lui, y compris pour la pendaison initiale ou le saut dans le vide. Bon. Et bref, et puis il y a cette espèce d'élégance en même temps. Des silhouettes, on dirait qu'elles patinent, mais en fait, vous voyez bien qu'elles sont prêtes à sortir de l'image, l'une à gauche, l'autre à droite, à se séparer, mais quand même, c'est un vieux couple. Alors, il y a beaucoup de cordes. Avant que ça se sépare, il y en a pour un bon moment. Vraiment. Bon, ils vont sortir hors champ, mais la corde va continuer à les lier. Elle est magnifique, cette image aussi, de ce point de vue-là. Parce que la mécanique des couples, c'est on s'éloigne, mais quand même, avant qu'on soit vraiment séparés, il y a un petit moment. Bon. Alors, un petit point sur le photomontage. Gilbert Garcin, il a donc suivi à Arles un atelier de photomontage, et puis il est tombé dedans, si je puis dire, dans cette pratique dont je dis un tout petit mot parce qu'elle est fondamentale. Rappelez d'abord qu'historiquement, on a beaucoup de photomontages au XIXe siècle, Anne-Cécile Guilbard en parlerait mieux que moi, mais pour monter des images, pour composer une image plus grande. Ce n'est pas strictement un photomontage, au sens, enfin, tel qu'on le perçoit aujourd'hui, mais disons que mettre bout à bout des images, pour le dire bêtement, photographique, ça existe assez tôt dans la pratique photographique primitive, et ce n'est pas péjoratif, on va mettre des guillemets. Je vais me contenter de renvoyer à deux, trois références. D'abord, vous rappelez que dès l'entre-deux-guerres, au XXe siècle, le Bauhaus, et quelqu'un comme Moholy-Nagy considère que le photomontage est une avancée, est un gain du monde moderne, un gain qu'offre la technique, une opportunité qu'offre la technique. Et il considère que le photomontage est l'une des voies possibles de la photographie moderne, éventuellement révolutionnaire, plein de guillemets, mais en tout cas qui déplace des choses. Bon, là, on est dans l'entre-deux-guerres, début des années 20, Bauhaus, etc. Les surréalistes, ensuite, vous savez bien, toute une partie de la photographie surréaliste va passer par le photomontage. Pensez à Man Ray, mais il y en a d'autres. Bon, avec des mises en œuvre à chaque fois, évidemment, différentes. Garcin a reconnu qu'il connaissait ces traditions-là, que ça lui rappelait des choses, oui, bref. Il s'amuse et le photomontage ici, très particulier, consistant à photographier une maquette dans laquelle figure elle-même une photographie, etc., c'est quelque chose, c'est un bricolage qu'il a assumé jusque très tard, y compris en faisant un pied de nez à tout ce qui était numérique, etc. Il lui fallait toucher, etc., toucher les sables, le caillou, les formes découpées, il fallait ça. Et donc, il a jusqu'au bout, si je puis dire, de sa pratique, souhaité absolument garder ce caractère matériel. Il fallait toucher la maquette, etc. Il fallait ensuite prendre la photographie et surtout pas s'en tenir au numérique. Et ça, j'insiste, parce que la photographie est aussi un art mécanique. Tous les grands photographes, je crois, jusqu'à date récente, ont besoin aussi du rapport charnel à l'appareil ou éventuellement à ce qu'ils photographient, etc. Alors, Gilbert Garcin met en œuvre un certain nombre de principes. J'en ai présenté quelques-uns, je vais essayer d'en montrer d'autres. Par exemple, ce n'est pas le plus intéressant de mon point de vue, mais je vous montre quand même, il a produit un certain nombre d'images qui s'appuient, enfin, qui sont des références à des mythes occidentaux. Vous avez ici Atlas heureux, Atlas malheureux. J'ai pris cet exemple parce que vous montrez que parfois il y a des diptyques chez lui. Il y a deux images qui existent en soi, mais qui existent d'autant plus qu'elles sont en lien, c'est un vrai diptyque. Atlas heureux, Atlas malheureux. Alors, ça donne à penser aussi sur la réalité de cette main énorme dans Atlas heureux, qui pourrait écrabouiller, mais qui peut-être vient porter son aide, vient aider. C'est presque une main de King Kong, n'est-ce pas ? Il joue sur plein de choses. Alors qu'à droite, l'Atlas malheureux, il y a la chaîne, là on est dans le poids du forçat. Je le dis comme ça parce qu'à chaque fois, ça convoque des références, ces images. Bon, la référence à Atlas, elle est évidemment très occidentale, de même que celle-ci, la perplexité de Sisyphe. Alors, il y a d'autres images, il y a 3-4 images de Sisyphe. On le voit monter, on le voit redescendre. Et là, c'est la perplexité de Sisyphe. Je montre cette image parce qu'elle est assez forte avec cet éclairage très particulier du fond nuageux, assez commun par ailleurs, qui détache la silhouette et l'effigie de Mr. G en haut de cette colline. Bon, et puis, vous reconnaissez la tête baissée. Ça vient de loin, ça vient de toute la peinture occidentale. Bon, c'est-à-dire la posture même de la tête, ce qui signifie. C'est un système de signes. Hein. Bon, et c'est très occidental, parce que j'ai lu beaucoup, même Magali Geoffrey dit ça, je ne suis pas d'accord avec elle, elle dit, oh, c'est universel. Ben non, ce n'est pas universel. Si vous montrez ça à un japonais, sauf s'il est de culture occidentale, il ne va pas comprendre de quoi il s'agit. Atlas non plus. Et si vous lui montrez ça, il ne va pas forcément comprendre non plus. C'est-à-dire Narcisse supplicié. Alors là, vous êtes vraiment dans Gilbert Garcin. Hein, parce que c'est... ça convoque Narcisse. Mais ça convoque aussi d'autres choses. L'homme au poteau, vous savez bien, dans l'histoire de la peinture, ce n'est pas Narcisse, c'est Saint-Sébastien. Et ici, il n'est pas traversé de flèches, mais traversé de cette violence qu'on lui fait, de lui asséner, je n'ai pas compté, des dizaines de Gilbert Garcin qui le regardent. Alors évidemment, ce n'est pas un autoportrait, hein, toujours pas. C'est un jeu. Alors il convoque aussi, c'est un peu iconoclaste, mine de rien, et je vais avoir pire après, je préviens, l'assistance. Bon, la suivante... Si elle vous pose problème, vous avez le droit de sortir. Bon, le Narcisse ici, moi, je la trouve formidable parce qu'au fond, c'est l'idée de... C'est très symbolique en même temps, sérieusement, très métaphorique. C'est une métaphore aussi du travail de Gilbert Garcin, photographe, qui ne cesse de mettre en jeu sa propre effigie. Alors, il n'arrête pas de dire qu'il est très embêté. Parfois, il faut qu'il coupe la tête. Ça. Il n'aime pas ça. Bon, parce que pour la penche, etc. Mais là, il joue aussi sur ce que c'est que le travail d'un photographe qui met en scène un personnage dont il est, non pas l'inspiration, mais l'enveloppe charnelle, si je puis dire, photographiée. Et il ne cesse de manière, enfin, sur un ton un peu dérisoire, à titre de dérision, de jouer sur le fait que la représentation de soi n'est pas du tout ce qui l'intéresse, mais qu'on peut en jouer pour produire un effet de sens. Bon, c'est ce qu'il fait ici. Et donc, lorsque son visage est représenté, je veux dire qu'il est figuré, qu'on arrive à le déceler, c'est juste parce qu'il est utile à la représentation, à l'enjeu de la photographie, et non pas pour que son portrait apparaisse le plus souvent, l'effigie de dos, etc. Alors, vous appréciez la composition, l'effet de perspective, le jeu d'ombre, je vais vite, le travail de la lumière. Tout ça vient aussi de la peinture et d'une vieille tradition, enfin de plusieurs traditions photographiques. Alors, voilà la photo un peu iconoclaste. Bon, elle est à plusieurs titres iconoclaste. D'abord, c'est un jeu sur les mots. Effectivement, comme vous voyez, se crucifier soi-même, ce n'est pas tout à fait possible. Parce qu'une fois qu'on a planté un clou, comment on fait pour ramasser d'autres clous? On ne peut pas. Vous y réfléchirez. Bon, alors, sérieusement, c'est gentiment iconoclaste, puisqu'on convoque, mais vous voyez que la croix est une croix de carnaval, c'est une croix de foire, si je puis dire. Bon, évidemment, ce n'est pas le Christ, il est trop vieux, il a par-dessus, n'est-ce pas? Donc, néanmoins, on convoque quelque chose qui est de l'ordre d'une représentation religieuse. Pour qu'on en soit sûr, on met les clous par terre, n'est-ce pas? Bon, et puis, c'est un jeu de mots sur mission impossible, c'est-à-dire aussi ce à quoi vous pensez tous, le film, la série, etc. Bon, il y a peut-être la musique qui vient. Là, c'est un pied de nez total. Le seul fait de rapprocher la croix du Christ à Mission Impossible est déjà assez provocateur, me semble-t-il. Là, vous êtes dans le bras d'honneur, en réalité, à plein de choses, peut-être pas à la religion, d'ailleurs, en réalité, mais peut-être à la représentation, tout ça. Et puis, vous noterez ici le fond, qui est beaucoup plus travaillé qu'à l'ordinaire. Les jeux de lumière très, très particuliers ici, ce n'est pas un fond tout noir, ce n'est pas un fond de nuage, c'est un fond qui met de la chair et de la matière, si je puis dire. Alors que très souvent, c'est une photo très abstraite. Il y a des fonds noirs, encore une fois, des nuages, mais qui sont purement symboliques. C'est une des rares photos que j'ai trouvées dans les 330 où il y a ce qu'on appellerait de la matière en photographie ou en peinture. Et ce n'est pas tout à fait anodin, à mon avis, que cette matière, il en ait besoin, non pas au sol, mais à l'arrière-plan, pour cette figuration hyper décalée, iconoclaste et plaisante, de quelque chose qui a rapport avec la crucifixion. Le plus souvent, donc, enfin, pas le plus souvent, très souvent, Gilbert Garcin joue sur les mots, ou plutôt l'image est une sorte de réplique, presque au sens sismique, à une expression un peu figée. Alors attention, il faut bien préciser, Gilbert Garcin, a priori, ne cherchait les titres le plus souvent qu'après avoir produit la maquette, puis l'image, être allé au bout du processus. Le titre était souvent, si j'ai bien compris, postérieur. Je suis persuadé que dans certains cas, non. Atlas, Narcisse, peu importe. Ici, cette image n'a de sens que parce qu'il a l'expression en tête. Certainement, l'expression « tracer sa route » est-elle un préalable. Donc ici, ce n'est pas moi qui fais un gros plan, hein, c'est l'image qui est ainsi. Donc là, ici, la silhouette est réduite à... Voilà, alors la double silhouette, on ne sait même pas trop, puisqu'il y a deux routes, il y a deux mains. Est-ce que ce sont ces deux mains ou un double? On ne sait plus. Mais au fond, c'est un jeu de mots visuel à partir d'une expression « tracer sa route ». J'en montre d'autres, cette nature-là. Le cercle de famille. Alors, il y en a un certain nombre de cette nature-là où on met en scène monsieur et madame et on transpose par l'image alors, une expression lexicalisée, comme on dit chez moi, c'est-à-dire une expression qui fait sens d'être intouchable, en quelque sorte. Le cercle de famille, on sait ce que ça signifie, mais c'est pareil. En japonais, je pense que ça ne se dira pas comme ça. Et donc, la transposition par l'image sera forcément différente. Bon, le cercle de famille ici, ça convoque aussi plein d'autres choses dans la mythologie qui est la nôtre. C'est toujours une image très occidentale, à mon avis, qu'un Indonésien ne comprendra pas de la même façon. Et puis, il y a toujours, vous voyez bien la pente vers la droite, il y a toujours l'idée que c'est un travail photographique aussi sur la question de l'équilibre sans cesse. Est-ce que ça ne va pas basculer, est-ce que ça ne va pas tomber quelque part. Tout le travail allégorique, métaphorique, convoque très souvent cette question de l'équilibre et de fragile, de la fugacité des choses. Alors, là, je n'ai pas mis de titre exprès. Est-ce que vous allez le trouver ? Devinette. Quel titre a-t-il donné à cette image ? Est-ce que quelqu'un, alors quelqu'un, peut-être que certains la connaissent, vous voyez bien qu'il y a une sorte de... Ah, oui, bravo, c'est le poids des ans. Bravo, monsieur. Bon, le poids des ans. Donc, le poids des ans, n'est-ce pas, c'est une expression un peu lexicalisée. Et ici, on la figure, on la met en jeu par l'image, eh bien, avec un monsieur qui est ici sur quelque chose pour peser, n'est-ce pas ? Une balance. Et puis celle-ci, le poids des nuages. Et donc, alors c'est Atlas autrement. Hein. C'est une image en appelle une autre chez Garcin, souvent. J'ai vu sa main saisie aussi. Il y a des suites d'images. Alors parfois, à plusieurs années de distance, il retravaille Atlas autrement, cette fois-ci, sur le mode du jeu de mots qu'on veut faire apparaître par l'image. Alors, petite pause. Vous voyez bien, dans une image comme celle-là, on est dans une forme de théâtralité. Le travail de Garcin, c'est un travail de mise en scène constante qui renvoie au théâtre, mais j'oserais dire, et ce n'est pas péjoratif, à un théâtre ancien, le théâtre qui est proche du mime. Ça renvoie à l'univers cinématographique. Je l'ai vu par la référence à Hulot, mais il ne faut pas oublier de rappeler la référence à Méliès, à lui est cher, c'est-à-dire à l'illusion, d'une part, et à la production très symbolique. Personne ne va croire... Enfin, si, les tout premiers personnes qui ont eu le film de Méliès y ont cru. Mais bon, en même temps, les trucs étaient très visibles. Donc, on est dans une symbolique et des choses très simples, un illusionnisme dont on ne cherche pas. On n'est pas dans l'illusion picturale, voilà. On ne cherche pas à faire croire quoi que ce soit au spectateur. C'est une sorte de pied de nez à toute l'histoire de la peinture en Occident, au moins jusqu'à la fin du 19e. On joue sur de l'illusion, mais en vous disant bien qu'il y a des trucs et que oui, bien sûr, c'est une illusion, c'est un jeu. Et ça, c'est aussi le clin d'œil côté cinéma, par exemple. Théâtre, donc, cinéma, et puis la photographie, l'histoire de la photographie de certaines manières. Mais je vais vous montrer ça malgré tout pour tirer le fil de... du jeu de mots par l'image ou de l'image qui transpose une réflexion parfois sur l'expression lexicalisée à pied d'œuvre, qui donne cette image en gros plan, il n'y en a pas tant que ça chez lui, qui est très, à la fois très iconoclaste, puisqu'il y a monsieur Mister G, monsieur tout le monde, monsieur personne au premier plan, et puis à droite, c'est un morceau de tableau, je le dis ainsi exprès, c'est une sorte de détail de tableau, vous apercevez un pied, c'est le pied du Christ. Donc, il y a des fils comme ça qu'on retrouve de l'un à l'autre. Là, je ne ris pas beaucoup en ce moment. Enfin, je ne fais pas beaucoup rire. Ben, si, parce que l'image, l'image n'a de sens que par rapport à la référence linguistique et textuelle qui est la sienne. J'aime beaucoup celle-là. Connaître ses limites. Et donc, pour les connaître, il faut les imager. Je le dis ainsi délibérément. Il faut les représenter. Alors, vous voyez, connaître les limites, c'est pas Gilbert Garcin, excusez-moi, qui prend ces mesures, mais il nous propose à nous qui regardons l'image un système évidemment plaisant, évidemment ludique, clin d'œil, d'accord, pour mesurer ses propres limites. Et c'est toujours cette silhouette, c'est toujours très géométrique. Il y a toujours un travail très particulier sur l'image ici. Très éclairée. J'aime beaucoup celle-ci. Là, elle ne me fait pas beaucoup rire, celle-là. Bon. Mais courir après le temps, n'est-ce pas ? Et donc, on prend au pied de la lettre. Et on prend au pied de la lettre et on l'illustre, pour le coup, on la met en scène. Alors, là, pour le coup, dès qu'on est dans quelque chose qui touche, me semble-t-il, à la question du temps, etc., il aime convoquer de la matière. Ce n'est pas inintéressant et je crois que c'est systématique. Alors, c'est une image qui joue de l'oblique, d'une forme d'abstraction, en même temps qu'on est... Il y a une tension là entre l'abstraction de la ligne, l'horloge en pleine lumière. Là, c'est un vrai travail photographique, c'est sûr, encore une fois. Cette silhouette dont on aperçoit quasiment que la main et le visage courbé, et puis cette inclinaison vers la gauche, bon, cette course est effrénée, c'est Sisyphe à l'envers, si je puis dire. Et puis, cette matière, c'est bien cette tension vers cette course impossible et le terminus, si j'ose dire, Alors oui, ça fait sourire, mais c'est en même temps très métaphysique, si on veut, ou une réflexion sur le temps. Alors, voilà une variante, c'est pour Anne-Cécile. Fin de partie, c'est très beckettien. Non, fin de partie, c'est monsieur et madame, c'est un damier. C'est quelque chose de très beckettien, mais la fin de partie, je la retrouve, par exemple, dans celle-ci. Alors là, c'est de l'humour. Là. Embarquement immédiat. Mais question, tu embarques où ? Bah, tu embarques le monsieur tout le monde, vous, moi, lui, nous embarquons à tour de rôle, n'est-ce pas ? Dans une sorte de pelle, j'en ai une chez moi. Mais tout le monde reconnaît cette pelle ? C'est une pelle à cendres. Okay, donc, embarquement immédiat, bah oui, ça renvoie à plein de choses, au beau voyage qu'on pourra faire, etc. L'aéroport et tout. Sauf que là, c'est une pelle à cendres. D'accord ? Donc là, c'est vraiment très garçon. C'est le garçon le plus noir, si je puis dire. Il y a un côté humour noir chez lui. Humour noir, mais plaisant, qu'on trouve encore dans cette image. La vie résumée. Alors, c'est presque Perequin. Hein. C'est la vie mode d'emploi. Ben là, c'est la vie résumée. C'est un diptyque. Il faut deux images. Eh bien, on tourne en rond, n'est-ce pas ? En portant sa croix. Le Christ n'est pas loin. Je n'ai pas cherché à savoir. Mais il est de culture chrétienne, forcément. Et puis, en haut, n'est-ce pas ? Alors, c'est quand même intéressant. Dans le diptyque, l'image finale, si j'ose dire, elle est en haut. Elle pourrait être en bas. Parce qu'on associe généralement la mort au bas, enfin, chez les chrétiens en tout cas, que je sache. Et là, c'est étrange, mais c'est un renversement délibéré. Attention, c'est quelqu'un de fin, Gilbert Garcin, bien sûr. Bon, l'image ultime, si je puis dire, elle est en haut. Alors, c'est pour ça qu'il doit être chrétien, n'est-ce pas ? Parce que la mort est vers le haut. Ben oui. Bon. Alors, plus cynique encore, c'est du cynisme plaisant, mais là, c'est très cynique, à mon avis. Je me suis dit, quel terme je vais employer, puisque ça fait rire, paraît-il. Ben, parfois, dérision, là, cynisme. Réservation. Ça, je trouve ça d'un cynisme. Bon, c'est tellement fort comme cynisme. Bon, alors, évidemment, ça fait penser à... C'est un effet de génération, je crois. Ça fait quand même penser au cimetière américain ou au cimetière de soldats, quoi. Il a plein d'images en tête, forcément, c'est un homme d'image. Et quand il nous balance ça à la figure, pardon, on a des images, vous savez, à perte de vue, ces croix alignées. Là, réservation. Monsieur tout le monde, vous, moi, réservation. Ça, c'est l'humour noir, c'est le travail de Gilbert Garcin. Je le dis, c'est pour moi très daté, c'est pas péjoratif, c'est très inscrit dans des références qui ne sont pas exactement de 2005, si je vois bien, qui viennent d'ailleurs. Il est né en 1929. Il avait un grand-père qui l'emmenait dans son cinoche voir des films parlants, puis des premiers films muets, puis des premiers films parlants, qui a dû lui parler de Méliès, etc. Cinéma Lumière à La Ciotat. Bon, il y a tout ça. Il y a ensuite la culture humaniste qui est la sienne, peut-être chrétienne, je n'ai pas cherché. Je ne vous ai pas montré d'autres images, je n'ai pas le temps, mais il y a beaucoup d'images autour de la question de l'absurde, beaucoup d'images sur la question... qui constitue un questionnement de ce que peut être la condition humaine. Sisyphe, c'est pas rien. Alors là, c'est pas seulement occidental. Quand vous êtes français, c'est pas la même chose Sisyphe que si vous êtes allemand. Ben parce qu'il y a Sisyphe heureux, il y a Camus qui est passé par là. À mon avis, enfin, pour moi, Garcin, c'est une photographie très occidentale et même très française. Ça ne se dit pas beaucoup, mais je crois que c'est vrai. C'est un photographe très français, c'est ni péjoratif, ni bien ni mal. Hein. Mais je veux dire, en termes de référence, Tati, c'est quand même assez français. Bon, Méliès aussi autrement, bon, bien sûr, pour d'autres raisons. Mais clairement, il est d'une culture, il est né en 1929. Alors, il a passé un an d'études aux États-Unis, c'est intéressant. Vous allez voir comment je vais finir. Bon, mais il est de culture très française et très historique. Très lié à des circonstances ou à des références qui sont les siennes, notamment de l'après-deuxième guerre, notamment l'existentialisme, etc., etc. Clairement. Ce qui est un peu paradoxal ou un peu décalé, vous avez un photographe qui, à la retraite, se met à photographier en 1993, à construire un travail très particulier. Et les références qu'il convoque, bah, c'est celles qu'il connaît, c'est celles de sa jeunesse en partie, ou du jeune adulte qu'il fut, c'est celle de l'existentialisme, c'est Beckett, fin de partie, c'est plein de choses. Ce n'est pas la culture des années 90 ou des années 2000. Garcin, pour moi, c'est un photographe délibérément décalé et qui avait le culot, j'allais dire, de revendiquer le fait d'être une autre époque. Et je crois qu'une part du succès ou de l'attention qui a été portée à la photographie de Garcin, elle est peut-être liée à ça aussi. C'est qu'il ramène au premier plan, si je puis dire, par le jeu de la photographie, des préoccupations qui ne sont pas exactement celles du monde photographique à ce moment-là. Pensez à ce que sont les années 90-2000 dans l'histoire de la photographie, ce n'est pas franchement ce genre de travail, ni techniquement, ni parce que ça convoque, y compris dans le rapport au texte, au texte de référence, au texte source, au texte qu'on interroge, qu'on met en travail par l'image photographique. Bon, je crois que c'est intéressant de le rappeler. Et puis, globalement, il y a tout un travail chez lui. Alors, Magali Geoffrey parle d'une dimension sociale, parfois antilibéraliste, pourquoi pas. Il y a toute une dimension qui est aussi lourde de clins d'œil multiples, je vais y arriver, à l'égard de l'histoire de l'art. On en a déjà croisé deux ou trois, mine de rien. J'adore cette photo, par exemple. J'ai mis le titre, mais je me suis dit, c'est peut-être pas la peine, mais enfin, en même temps, si. Alors, c'est peut-être pas la peine pour nous, Français, mais pour un Indonésien, pour reprendre mon exemple idiot, ça, c'est utile. Et encore, je suis même pas sûr que le titre lui dise quoi que ce soit. Alors, pour les plus jeunes, peut-être, ça renvoie à un tableau de Millet qui a été sur toutes les boîtes de chocolat dans les années 50-60, etc. Alors, c'est vrai, c'est peut-être plus tout à fait la culture des plus jeunes. Mais pour les gens un petit peu plus de bouteilles, tout le monde connaît l'Angélus de Millet, n'est-ce pas ? Bon, ça renvoie, donc c'est très daté, je me permets de le rappeler. Ça renvoie aussi à un référent chrétien, quand même, n'est-ce pas, l'Angélus, je vous rappelle. Alors, je vous rappelle, vous avez le tableau source, je ne l'ai pas mis exprès, hein, quand même. Vous chercherez si vous ne le connaissez pas. Bon. Bon, mais ça renvoie à des couples de paysans, n'est-ce pas ? Alors, Millet, c'est autre chose. Il y a d'autres enjeux dans le tableau de Millet. Je ne rigole pas, bien sûr. Alors ici, question, comment est la, enfin, qu'est-ce qui fait référence ? Eh bien, bien sûr, la silhouette de l'église au fond, à la même place dans le tableau de Millet, et puis la posture des deux personnages. Je vérifiais quand même. Ça ressemblait, mais c'est exactement la même. Donc, il s'agit ici, c'est un bel exemple, hein, il s'agit ici pour les deux personnages de prendre la pose, de refaire quelque chose comme le tableau de Millet, prendre la pose qui s'est imposée dans l'imaginaire français au moins, peut-être un peu plus, par référence à ce tableau. On fait donc prendre, avec un coup de ciseau, hein, la pose aux deux effigies, aux deux silhouettes. On n'oublie pas l'église pour être sûr qu'on reconnaisse, quoi. Et puis on vide tout. Il y a vaguement du sable, un éclairage assez simple, et voilà. Ça fonctionne par le fait que chacun, j'espère, va reconnaître l'Angélus. Sinon, vous montrez cette image à quelqu'un de trop jeune ou quelqu'un d'un autre continent qui ne connaît pas ces références-là, il ne va pas comprendre l'image. L'image suppose une connivence avec le spectateur, regardeur en l'occurrence, qui convoque à son esprit le tableau source et qui éprouve ce que la mise en jeu par ce travail de maquette, puis de photographie, de lumière, etc., à la fois ce que ça fait, si je puis dire, à la référence picturale et ce que ça produit par la photographie. Alors, peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'humour, parce que Millet, attention, on ne touchait pas. L'Angélus, c'était le grand tableau à mettre dans la cuisine. Hein. Ça ne rigolait pas. Bon, dans les années 50, aujourd'hui, c'est un peu oublié, ces références-là, mais ça, enfin, je crois que les plus âgés seront d'accord avec moi. Ça, hein. C'est le type d'image, c'était l'histoire nationale, quasiment. Hein. Bon. Alors là, âme sensible, s'abstenir, vous avez le droit de sortir de deuxième fois. Bon, l'indifférent, j'adore ça, ça me fait rire beaucoup. Là. Bon. Alors, l'indifférent, les plus jeunes connaissent, les plus âgés peut-être moins. Bref. Bon, alors, sérieusement, vous voyez comment ça marche, si je puis dire. Eh bien, c'est un montage, attention, c'est un hyper-montage, c'est-à-dire c'est une maquette, c'est compliqué à faire, à mon avis. Hein. Premièrement, on prend un détail et on l'agrandit, enfin non, on ne l'agrandit pas, puisque tout est en petit qu'on photographie, bon, bref. Vous avez reconnu l'origine du monde, de Courbet. Attention, je vous rappelle, ce tableau a longtemps été caché derrière un rideau, était impossible à voir, n'est-ce pas ? On en prend une photographie, on la place devant un miroir, il faut qu'elle se réfléchisse, et on y fait passer, si je puis dire, au sol, sur cette réflexion. Alors c'est un miroir, mais ça se donne comme un sol d'allée bien ciré ou que sais-je. Et donc, Monsieur G traverse deux fois l'image, enfin, il passe devant l'image, mais aussi de la traverse, puisqu'elle se réfléchit. Il y a une question d'angle et tout, c'est compliqué. Hein. OK, mais c'est très passionnant. Et voilà, l'indifférent, qu'est-ce qui, a priori, pour quelqu'un de cet âge-là, attention, hein, ce tableau-là, je ne sais plus à quelle année il est sorti, mais pendant des décennies, c'est un tableau invisible. Eh bien, à quoi ne peut-on rester indifférent ? Si vous pensez à l'histoire de la peinture, un des gros clashs, si je puis dire, ça a été la sortie de ce tableau, au XXe siècle. Peut-être aussi, on ne peut pas rester indifférent au charme du corps féminin quand on s'appelle Mister G, je ne sais pas, à vous de jouer. Hein. Bon, mais il convoque ce tableau comme un tableau qui ne peut que susciter quoi ? Une excitation du désir ou une révolte absolue. Je vous rappelle, ce tableau a quand même posé un certain nombre de problèmes. Enfin, il ne fallait pas trop le montrer. Alors peut-être ça renvoie à Garcin se souvenant de ce qui s'était joué quand on a commencé à présenter ce tableau au musée d'Orsay. Peut-être c'est aussi Garcin des années 2010 qui s'est dit que peut-être il y avait montrer un tableau comme celui-là. Vous savez bien qu'aujourd'hui ça pose éventuellement d'autres problèmes, pas du tout les mêmes, et peut-être qu'il y pense. Bon, mais c'est quand même très fort cet indifférent qui passe comme ça négligemment. La silhouette est essentielle ici parce que la silhouette, la mise en jeu du silhouette. Ce monsieur n'importe qui, monsieur tout le monde, la silhouette dans son, comment dire, dans sa simplicité, dans son absence d'expression. Je pensais au mime, parce que l'art du mime, c'est à la fois de l'expression, mais ça peut être aussi une simplicité de non-expression. Bon, avec le mime, ce qui ne va pas dans la référence, c'est souvent le visage. Ici, ce n'est pas le visage. Bon, mais ça n'empêche. Alors, on joue sur l'homme penché au sol, il réfléchit en même temps, il ne fait pas autre chose, hein. Il réfléchit. Mais il réfléchit en étant indifférent à ce qu'on lui propose. Là, vous pouvez y passer un moment, il est riche, elle est riche l'image. Oui. Alors peut-être qu'il regarde.
Pardon, je disais que peut-être il n'est pas complètement indifférent puisqu'il a quand même le regard sur le reflet.
Alors, peut-être vous avez raison, Alain. D'une part, il faut faire attention, je crois, au titre de Gilbert Garcin. L'image, vous le voyez bien, c'est une suite de pièges, plus ou moins. De pièges aimables, de pièges plaisants, de pièges humoristiques. Parfois, le titre, il est à double entente. Et parfois, il paraît vous donner la solution et puis au revoir. C'est plus compliqué que ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous, en réalité. On nous montre là un indifférent. Mais la représentation de l'indifférence qui est construite par référence à un tableau qui ne peut que soit scandaliser, soit séduire, soit ce que vous voulez, enfin qui fait réagir, quoi. Eh bien, ce n'est pas une image qui montre seulement l'indifférence, parce que vous avez tout à fait raison, madame, la question c'est pourquoi ce reflet ? À quoi sert-il ? Alors, il peut servir, si je puis dire, à hyperboliser l'image, dire, ah bah tiens, il ne regardait pas, il n'a pas vu le tableau, bah donc on lui remet au sol. Mais peut-être qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça, et que bah, ce n'est pas l'image première qui regarde, mais l'autre image, peut-être implicitement, ça renvoie aussi à la difficulté de montrer ce tableau. Bref, attention aux titres de Garcin, ils paraissent parfois simples, parfois ils sont délibérément simplistes, et parfois, à mon sens, ils sont de l'ordre du piège. Alors, je continue. Bientôt fini. Le yin et le yang, où les Malevitch choisissent un tapis. Bon, alors je finis par une série d'images qui se jouent délibérément par référence à la peinture. Au passage, il y a des petits coups de griffe amusés, plaisantes, violentes, ça dépend, enfin des coups de griffe. Bon, ici, c'est une variation sur ce qu'on a vu tout à l'heure, là, à la fin du temps, etc. Mais il y a la parenthèse, alors il sait ce qu'il fait, c'est lui la parenthèse, c'est pas moi. Bon, où les Malevitch choisissent un tapis. Bon, ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs manières d'entendre l'image. C'est le yin et le yang, ce qui est déjà intéressant, donc, parce que ça réfère au noir et au blanc, donc à quelque chose qui est éminemment photographique, n'est-ce pas ? Bon, qui renvoie à une autre culture, il sait très bien ce qu'il fait, à mon avis. Et puis la parenthèse qui tient au fait. On peut aussi s'amuser, n'est-ce pas ? Bon, éventuellement. Alors, celle-là me paraît, je l'adore, celle-là. Bon. La seule solution, ou Fontana en mieux. Alors, Lucio Fontana, peut-être clair pour tout le monde, ou, en deux mots, je vous rappelle, c'est cet artiste italien qui s'est fait une spécialité, disons-le trop vite, de tableaux avec des lacérations, et travaille sur la matière et le matériau pictural, enfin, la toile tendue, les lacérations. Et donc, ici, il y a une sorte de faux Fontana qui est convoqué derrière, d'accord, avec cette lumière très particulière, avec une exagération de la fente, n'est-ce pas? Bon, alors, d'aucuns la trouveront très érotique, c'est encore un autre problème, mais pourquoi pas, ils jouent là-dessus, attention. Bon, et puis, il y a cette silhouette. Alors, vous noterez, bien sûr, l'inclination, ça part dans le même sens, comme vous savez, la silhouette. Et puis, donc, eh bien, que fait-il exactement? Bonne question. Alors, il ouvre, il fait le geste d'ouvrir, n'est-ce pas? Sa gabardine, etc. Alors, ce geste-là, il peut signifier plusieurs choses. Alors, il ne s'agit pas de savoir quelle est la bonne réponse. Ce geste-là, il convoque plusieurs manières de répondre, ou plusieurs manières de tirer le fil, si je peux dire. Puisqu'il s'agit d'un jeu à partir de la fente dans le tableau, donc d'une sorte d'éventration. Donc je dis, ben voilà, la référence possible, c'est Mishima, c'est beaucoup, Hakiri, etc. Bon, quand vous prenez un tableau, vous lacérez, on s'ouvre le ventre, n'est-ce pas? Mais vous savez bien qu'ouvrir son imperméable, c'est aussi éventuellement d'autres choses. C'est une image très piégeuse, mine de rien. Alors là, vous êtes dans l'humour à la Garcin, un petit peu décalé, un petit peu... Bon, mais voilà, allez, j'avance. Le double autoportrait, oui, je l'ai gardé là presque pour la fin, pour vous montrer qu'il ne faut pas prendre ça, mais surtout pas au pied de la lettre. Donc, vous avez un double autoportrait qui est un double pied de nez, parce qu'on convoque quelque chose de la représentation de l'homme politique, de l'homme social, etc., qui est là pour se faire applaudir, et puis l'autre qui est au sol et qui soutient tout ça. Bref, c'est du Narcisse bis, si je puis dire, enfin, le Narcisse en souffrance. Hein. Bon, plus qu'autre chose. Et puis voilà, je vais terminer par ça, si vous permettez, mais pendant trois minutes encore. Alors bon, un aveu, oui, j'adore Edward Hopper, c'est clair. Bon. Alors, sérieusement, il y a plusieurs images de Garcin convoquent la référence à Edward Hopper. Je me suis dit, bon, d'abord, je me suis dit, tiens, bah oui, il convoque Hopper, comme il convoque Millet, comme il convoque Fontana, il va s'amuser avec. C'est plus compliqué que ça, surtout avec cette image. Peut-être encore plus avec son titre, Un autre jour, d'après Edward Hopper, pour ceux qui n'auraient pas bien mis leurs lunettes, 2006. Bon. En réalité, cette image, elle est compliquée. Je vais terminer en commentant deux minutes, vieux prof. Bon, sérieusement, Edward Hopper, c'est pas n'importe qui dans l'histoire de la peinture. C'est le premier peintre strictement américain. Il y a des peintres aux États-Unis avant lui, mais c'est lui qui invente la peinture américaine moderne, clairement. C'est en même temps le premier peintre du cinéma, aussi. Un des premiers à mettre en peinture la salle de cinéma, le film, etc. Et c'est le premier peintre aussi de la peinture électrique, c'est-à-dire de la peinture non... Enfin, de la lumière, pardon. Pas de la peinture électrique, je suis fatigué. La lumière électrique, la lumière non naturelle. Tout ça, il le sait, Garcin, et il en joue. Deuxième chose, Edward Hopper, certains doivent le savoir, il a passé sa vie à peindre des scènes avec des hommes et des femmes, parfois des maisons, etc. Mais c'est toujours la même femme, évidemment, c'est la sienne. Il y a un seul modèle, c'est son épouse, ancienne comédienne, etc. Le travail de Hopper consistait à imaginer une scène, c'est très théâtral, le travail de Hopper. Et ensuite, avec sa femme, il se demandait quelle robe elle allait acheter pour ce tableau, etc. Il confectionnait un personnage, c'est toujours elle. Vous voyez où je veux en venir? Tout le travail de Hopper, c'est un travail qui convoque madame comme modèle et monsieur et madame comme maquettiste. D'ailleurs, il crée une maquette le plus souvent. Vieux truc, hein, Poussin faisait ça dans les églises à Rome. Hein. Il faisait des maquettes pour savoir comment la lumière a tombé sur le tableau d'histoire. Bon. Donc, Hopper et son épouse... Vie conjugale compliquée, paraît-il, mais peu importe, ils s'engueulaient beaucoup, il paraît. C'est notoriété publique. Mais ils travaillaient toujours ensemble. Et ils créaient ces maquettes avec des personnages, costumes, etc. D'accord ? Et ensuite, question de jeu de lumière, bon, et de mise en jeu. Par un jeu de couleurs, vous savez très bien que la peinture de Hopper, c'est une peinture figurative, non illusionniste. On est d'accord ? C'est une peinture figurative. Il y a des maisons, il y a des hommes, des femmes, mais ce n'est pas illusionniste. Personne ne croit qu'on est effectivement Nighthawks, on n'est pas dans un café à New York en pleine nuit. C'est très bien, le traitement de l'espace, bon, personne ne tombe dans l'illusion. Ça a quelque chose à voir avec le travail de Garcin, de jouer sur la représentation tout en refusant absolument toute procédure illusionniste, au contraire, en montrant comment ça marche, l'illusion, etc., et en convoquant quelque chose qui est en même temps de l'ordre de la méditation, parfois presque métaphysique, la réflexion sur la condition humaine, sur la solitude, sur ce que c'est que la vie de couple, je l'ai dit très vite, etc. Et en réalité, ce travail-là, ce tableau-là, il me fascine, enfin, ce tableau, oui, pardon de l'absus, cette photographie-là me fascine beaucoup parce qu'elle convoque plein de choses. Elle est très piégeuse, et ça, c'est très garçon. À mon avis, c'est un très grand érudit, mine de rien. Enfin, un grand amateur de plein de choses, d'images. Je me suis dit quand même, j'allais vérifier, j'allais regarder le tableau de Hopper, A Woman in the Sun. C'est un des derniers tableaux de Hopper, hein. C'est pas inintéressant. Et regardez bien l'image, parce que je peux pas montrer, je veux pas montrer les deux en même temps. Et vous voyez que la femme, elle regarde, bah, y a une image, elle regarde un tableau à certains égards. Elle regarde vers la lumière, mais elle regarde aussi une représentation. Hopper retourne le tableau et surtout, il le découpe. Il le recoupe, je ne sais pas comment il faut dire ça, il enlève l'image dans le tableau. C'est que la reproduction supposée, là tout se passe comme si Mr. G était au musée. Il y a plusieurs images où on le voit supposément dans le musée. Il est au musée, supposément, il passe devant le tableau. Ben non, le tableau est truqué. Okay ? Et puis à droite, ce n'est pas truqué du tout. À droite, c'est ça, à mon avis. C'est-à-dire une image géniale, magnifique, une des dernières images de Kertész. Attention, il est en train de convoquer des dernières œuvres. Hein. Quasiment la dernière image, une des dernières de Kertész, photographe hongrois, etc. Alors, c'est une photographie géniale. C'est totalement abstrait. C'est des lignes, des fonds, d'accord ? Et puis, il y a cette silhouette refusée, bien sûr. Et puis, on regarde la mer. Enfin, c'est très métaphysique, c'est une photo inouïe. Enfin, moi, j'adore cette photo. C'est un gouffre, cette photo. Bon, et pour moi, cette photographie de Garcin, pas de lapsus, regardez où il se trouve. Il se trouve au milieu, alors toujours cette silhouette. Alors, j'allais dire, vous ne le répéterez pas, presque gaulienne. Là, vous avez vu la silhouette, le petit ventre. Pour les gens de sa génération, c'est de Gaulle, évidemment. C'est pour ça que je vous dis, c'est très daté, certains égards. Bon, oublions de Gaulle, mais quand même. Bon. Il se met au milieu. Vous avez vu, Hopper d'un côté, Kertész de l'autre. Il ne nous regarde pas, s'il nous regardait, c'est... Bon, bref, mais c'est ça, plaisamment, hein, sans violence, comprenez-moi. Mais cette image magnifique, c'est tout garçon, ça a l'air très anodin. Regardez cette lumière, l'espèce d'ombre portée monumentale, c'est tellement énorme qu'on se moque de nous d'un bout à l'autre. Et c'est un espace photographique qu'il se donne à partir d'une maquette. Il est en train de convoquer... Hopper, parce qu'il y avait quelque chose à voir, à mon avis, dans le travail artisanal à la Hopper et le bricolage à la Garcin. À mon avis, il y a du lien. Et en même temps, il se met à la place de la silhouette dans la photo de Kertész. Je m'autorise à aller jusque-là parce que j'ai parlé du chien des Lotterwitz. Je ne sais pas si vous le montrez, si vous l'avez. Je ne sais pas ce que vous avez comme 25 images. Mais il y a des images où il rentre dans le tableau. Il y a des images photographiques où la maquette mise en jeu par la photographie consiste à rentrer dans le tableau ou dans la photographie d'un autre. Les Lotterwitz, par exemple. Et ici, ce qu'il y a de formidable ici, je crois, c'est la tension qu'il instaure entre cette référence picturale, tout le monde la reconnaît, la référence photographique, à mon avis, plus discrète. Je ne l'ai pas vue tout de suite. Je me suis dit, ça me rappelle quelque chose, cette histoire-là. Mais je crois que ça tient, n'est-ce pas ? Et que la silhouette, elle est remise en jeu, elle est là, mais il y a même le bord. Bon. Elle est là, mais sans être là. C'est-à-dire qu'elle est présente. C'est tout le travail, à certains égards, de la photographie chez Garcin, je termine. Voilà, dans une image comme celle-là, cette maquette mise en jeu par la photographie, de la lumière, regardez, il y a tout là, il y a les jeux d'ombre, il y a la géométrie, il y a le bout de nuage, là, très symbolique, il y a la peinture comme référence. On part de là, et en plus, cette peinture elle a un lien avec la photographie, avec le cinéma, avec l'électricité, tout ça. Bon. Et puis, il est là, en plein milieu, c'est composé, attention, hein, ça rigole pas. Hein. Il est là, en plein milieu, dans cette tension que s'en travaille lui, c'est cette tension entre voilà, quelque chose qui est de l'ordre de la peinture, pas n'importe laquelle, peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la photographie, pas n'importe laquelle, et puis voilà. Moi, Mr. G, je suis au milieu, je reçois tout ça, puis vous, débrouillez-vous. Quoi. Voilà. Merci.
Merci Dominique, tu nous as donné plein de clés, je pense, de grille de lecture, de, voilà, de regard justement pour apprécier donc, l'exposition et les tirages qui seront proposés par le festival. Alors, tu as parlé du titre tout à l'heure. Il se trouve que le livre de Magali Geoffrey, voilà, donc tout peut arriver, et aux éditions Filigrane. Les éditions Filigrane sont dirigées par Patrick Lebescon, qui a fait une vidéo d'une douzaine de minutes que vous pouvez trouver si vous tapez le cabanon de Mister G sur Vimeo. Et il y parle notamment des titres. Et j'avais noté cette citation de Gilbert Garcin qui dit « Le titre fait partie de l'image. Le titre tel que je l'imagine ne doit pas être trop descriptif. Il ne doit pas mettre le regardeur sur des rails. Il faut qu'il lui ouvre une perspective. » Voilà, c'était pour compléter sur ce que tu as soulevé tout à l'heure. Mais je ne sais plus s'il dit... En revanche, je me souviens, plus j'ai regardé la vidéo il y a trop longtemps, je ne sais plus s'il dit, parfois, s'il n'avait pas des titres qui, justement, venaient avant les photographies. Je crois que oui.
Pour les atlas, etc., c'est évident que oui.
Je pense.
Pour d'autres, quand c'est vraiment un jeu de forme, etc., mais moi, je crois que dans la plupart des cas, il sait où il va, il sait ce qu'il veut faire. Peut-être qu'il hésite sur un adjectif ou je ne sais pas quoi. C'est toujours des titres très simples, mais en fait, l'idée, elle est claire, de toute façon, à chaque fois. Il y a une citation que je n'ai pas eu le temps de faire, j'ai oublié de faire, je la fais en transition. C'est Magali Geoffrey, je crois qu'il l'interrogeait, il demandait pourquoi ces photos, avec la gravité quand même, il y a des moments où on sourit, voire on rit, mais il répondait ceci, « Je vois les idées comme des soucis, des préoccupations. Dit brutalement, je mets en scène mes emmerdements. » Voilà. Donc c'est vieillir, c'est les impôts, c'est plein de choses. Quoi. Voilà.
Juste pour reprendre dans un ouvrage qui s'appelle L'Atelier, mais qui reprenait différentes interviews d'un certain nombre d'artistes, donc L'Atelier de Gilbert Garcin. Donc je voulais vous exprimer trois choses. Ce qu'il dit, j'essaie d'exprimer des choses sérieuses de manière légère. Il faut éviter d'être pédant. Alors j'arrive à faire passer par le biais de l'humour des choses que par pudeur, je n'exposerai pas d'une autre manière. Ce qui exprime certaines choses. Alors, quand on parle de ses débuts du photomontage, donc il était interrogé là, je découvre cette chose formidable, la photo ne consiste pas bêtement à photographier la réalité. Nous sommes dans les années 80. Il est intéressant d'ailleurs de comparer les évolutions respectives du cinéma et de la photographie sur un fond d'évolution technique équivalente. Le premier s'est résolument tourné vers la fiction, alors que la photographie, mis à part certains essais très brefs de romans photo, s'est complètement tournée vers la reproduction de la réalité. Ce qui, moi, à mon sens, exprime pourquoi il s'en va au-delà de la réalité dans ces images. Et enfin, juste, ce qu'il disait, vous avez... c'était la conclusion de son interview... Alors, il parlait au départ d'une photographie où il y a une boule qui descend une pente et il est sous la boule et le fil se détend. Voilà, c'était à ce sujet-là, mais je pense que ça s'exprime pour ces autres photographies. C'est quand même étonnant qu'avec des moyens aussi rudimentaires, on puisse créer l'illusion. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est la crédulité du spectateur, car quand on regarde attentivement, on se rend bien compte qu'on a affaire à un personnage découpé, à un ballon d'enfant, et non pas au globe terrestre. Donc il renvoie le spectateur ou le regardeur à son imaginaire aussi, sachant que très bien que quand on aborde les photos de Gilbert Garcin, elles ne peuvent pas être réelles.
Oui, je réponds deux mots, mais... C'est vraiment un travail qui part du principe, en réalité, que la photo telle que lui la pratique n'a pas à rendre compte en aucune manière de la réalité. Ça ne l'intéresse pas. Ou ça l'intéresse en tant qu'effet de citation retravaillé, mâchonné, j'allais dire, par l'image, enfin, remise en jeu. C'est ce que je disais, que ce n'est pas du tout un photographe illusionniste d'aucune manière. Mais Hopper non plus, du côté de la peinture. Ne pas l'oublier. J'y tiens. Mais vous avez raison, bien sûr, c'est...
Merci. Bonsoir, merci pour cette belle conférence. Une question. Avant 93, il faisait quoi, Monsieur Garcin ?
Oui, j'ai oublié de le rappeler. C'est un chef d'entreprise. Vous avez raison de me le faire. J'ai pas lu toutes mes notes. J'ai oublié de vous le dire. Vous avez tout à fait raison. Merci, monsieur, pour cet oubli que je vais réparer. Eh bien, il a fait une école de commerce dans sa jeunesse. Il est parti un an aux États-Unis. Je l'ai dit parce que il a fait des études aux États-Unis. Ça veut dire que dans les années 50, je crois, il devait connaître un petit peu le climat américain. Il est apparemment féru de littérature américaine. Bon. Et ensuite, il est revenu, il est allé à Marseille et il s'est installé, enfin, je le dis parce qu'il a quitté la Ciotat, ça ne lui a pas beaucoup plu, je crois. Il est allé à Marseille, donc il a créé une entreprise de luminaires. Il a passé sa vie à créer, attention, et à vendre des luminaires. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à travailler la lumière, si je peux dire, mais un peu différemment, à vendre des lampadaires, etc., à les créer aussi. Et donc, parti en retraite, il a affronté la lumière autrement. Mais merci de votre question, sans j'ai oublié de le dire. C'est important.
Il y a d'autres questions ?
Est-ce que vous connaissez des liens entre Gilbert Garcin et Duane Michels ?
Je n'en connais pas, alors je ne suis pas un spécialiste. Hein, j'ai essayé de. Bon. Je ne crois pas qu'il y en ait. Enfin, je pense que c'est pas, ce ne sont pas ses références. Alors, ce que je connais de Duane Michels, en tout cas, il y a un rapport au texte qui n'est pas du tout le même. Ni un rapport à la. Enfin, un rapport à la série qui est totalement différent. Il y a un rapport aussi. La représentation de la réalité, qui est, là on est dans. Qui est totalement différent aussi. Alors peut-être ce qui vous a fait penser, c'est le Christ, par exemple, je ne sais pas. Chez Michaels, enfin ce que j'en sais, mais tu peux peut-être compléter après la réponse, hein, mais. Le rapport au texte n'est pas du tout le même. Vous savez, il y a beaucoup de dispositifs chez Michaels où il y a une image photographique et des poèmes. De sa main. Chez Michael, l'autoportrait, il est toujours là. Enfin, il est en creux. Il se photographie rarement, mais c'est très intime. Enfin, c'est une démarche totalement différente. Je ne sais pas ce que vous y faites penser, sérieusement. Enfin, Anne-Cécile, vas-y.
Oui, je vois quelques liens, effectivement. Alors, je ne peux pas répondre non plus à la question de si Garcin connaît Michaels. A priori, quand on commence la photo en 93... On connaît son travail. Effectivement, on peut y songer dans la mesure où Michael photographiait ses rêves. Enfin, c'est pour ça qu'il faisait de la photographie. Donc il y a bien cette idée d'un écart absolu, d'une démission de l'enregistrement de la réalité et la vraisemblance. Il y a ce rapport au texte aussi, enfin l'allégorie parfois. Alors, on le connaît souvent pour ses séries, effectivement, mais dans des images uniques, il y a un rapport. Du titre à la photo soit qu'ils ont en commun, soit le Garcin a été inspiré par l'autre. Mais après, on est d'accord, Dominique, que les univers sont extrêmement loin l'un de l'autre. Ouais. Et notamment, grâce à ta démonstration, permets-moi, notamment grâce à ta démonstration du caractère français de la photographie de Gilbert Garcin. C'est tout à fait convaincant et c'est très juste, ouais. Merci aussi pour ça.
Alors, madame, pour aller dans votre sens quand même, là où je suis vraiment volontiers, c'est le recours à la symbolique. Il y a un travail parfois allégorique, même, chez Michaels. Et là, je serais d'accord avec vous, c'est peut-être ça qui vous y a fait penser, la convocation de figures ou d'éléments symboliques qui sont mis en jeu, qui sont mis en question, qui sont travaillés par l'image photographique. Là, je serais d'accord avec vous. Peut-être dans le jeu sur le décor avéré, sa simplicité, la recherche de noir et blanc très tranchant, etc. Oui, je vous suivrai là-dessus. Ça, il n'empêche que ce sont des univers quand même aux antipodes, me semble-t-il. Michaels, il est pour le coup très américain à certains égards. Enfin, je crois aussi. Bon. Mais c'est une question intéressante, oui, à méditer.
Dernière question.
Je pense que Gilbert Garcin photographie en argentique.
Oui, absolument. Oui.
Et par rapport au monde actuel, on est plus dans... Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il mettait énormément de temps pour faire une photo. C'est-à-dire que même des fois, très longtemps.
Oui, alors là, il leur fait, si vous regardez sur son site, il y en a en moyenne une dizaine par an, pas plus. C'était un travail d'orfèvre. Il y en a beaucoup qui, visiblement, ça a loupé. Enfin, il n'est pas réussi où il est au bout, puisqu'il y a des numérotations absentes, si je peux dire. Mais je crois que l'année où il a produit le plus, ça devait être 15 photos. Parfois, une année, c'est 6 photos. Donc, c'était un amateur. Il faisait ça quand il avait le temps, quand ça l'amusait. Enfin, je suppose pas forcément toutes les semaines. Je parlais de rituels, mais à mon avis, il y avait des exceptions. Mais oui, c'était quelqu'un. Il y avait une économie. Il a fait 300 images, à la fois beaucoup et pas du tout. Si vous rapportez ça à un photographe, c'est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'images. Enfin, bon. Pardon, je vous ai coupé. Oui.
Non, mais vous avez bien répondu. Effectivement, c'est un rapport au temps. Et actuellement, on est plutôt dans le prendre des photographies à tout vent. On en a plein l'ordinateur. Et donc, ça, c'est ce temps-là me plaît bien. Voilà.
Il y avait une dernière question, monsieur.
Simplement apporter un élément juste dans la réponse. Si vous rencontrez les autres invités là, qui selon pour certains largement inspirés de l'esprit de Garcin, le rapport à la photographie, c'est 3 mois sur une photographie pour certains. Le travail qui est fait, quand je pense à Michel Lagarde, où il fait sa mise en scène sur un dessin, ensuite il photographie chaque élément et reconstitue sa photo. C'est-à-dire qu'il a passé, lui, sous l'aspect numérique, le travail de maquettiste que faisait Garcin. Donc, c'est pas le... Il y a une... Bon, on va pas anticiper sur ce qui va être... ce que vous pourrez voir et rencontrer. Et je veux faire court. Donc, c'est Et les deux autres personnes que nous avons aussi parlent de temps passé sur la photographie. C'est qu'on n'est pas dans l'immédiateté numérique. On modifie, on compose juste. Non, il y a un travail d'œuvre derrière, au même titre que lui faisait. Donc il y a quand même cette philosophie-là de passer du temps sur l'œuvre que l'on réalise.
Oui, par curiosité, est-ce qu'il s'est laissé filmer en train de faire ses maquettes, etc.
Je te laisse répondre, je ne sais pas. Mais
si, la vidéo que j'ai mentionnée
oui,
voilà. Tout à l'heure.
Ah oui.
Alors, on l'a pas forcément, mais il montre en fait tout son cabanon justement à La Ciotat. Dans lequel voilà, il sort les différents personnages, il montre comment il fait. Il n'y a pas forcément de... Il n'est pas filmé en train de faire une prise de vue. Mais en tout cas, on voit le dispositif. Donc, dans cette vidéo, vous aurez ça.
Il existe une autre vidéo. Il existe également une autre vidéo qui était une interview dans le cadre des rencontres d'Arles, où il mélange justement la partie interview, donc expliquer sa philosophie, son travail, en grande partie tout ce qui a été dit par Monsieur Monconduit ressort bien, et également son travail, ses maquettes, comment il réalise son travail. Et donc cette vidéo s'appelle Tout peut arriver, et on la trouve également, on la trouve sur YouTube.
Bien, désolé, je dois clore cette soirée, mais merci beaucoup pour votre venue en nombre. Et le prochain rendez-vous, et merci beaucoup Dominique, évidemment, pour cette excellente conférence. Le prochain rendez-vous est un tout autre thème, puisque nous partirons entre science et poésie, avec, donc en parlant de quelqu'un qui s'appelle Julien de Seine, qui a fait partie de... première société photographique et qui était également astronome, et c'est Alice Aigrin qui je crois que maintenant elle est docteur en histoire de la photographie, qui viendra nous en parler, et c'est le 5 décembre à 18h30. Voilà, à très bientôt. Au revoir.